Audrey Mondy.
Bonjour. L'impôt des frontaliers est parvenu il y a quelques jours au canton de Neuchâtel. Ça représente un peu moins de 50 millions de francs pour 2021, dont les trois quarts reviennent aux communes dans lesquelles le travailleur français exerce son activité. Un public enthousiaste et des marchands heureux d'être de retour. La 47e brocante du Landron s'est ouverte ce matin après deux ans de pause forcée en raison du Covid. Alexandre Balmer, 15e au championnat du monde de cyclisme des moins de 23 ans en Australie. À l'arrivée, le chaudfaunier a fait part de sa frustration. Il n'a pas manqué de beaucoup le podium. Météo, la couverture nuageuse va se faire de plus en plus menaçante au fil de l'après-midi. Une dégradation pluvieuse est attendue cette nuit. Entre 15 000 et 16 000 personnes sont établies en France voisine et travaillent dans le canton de Neuchâtel. Le nombre de frontaliers est en constante hausse depuis plusieurs années. Ces personnes sont soumises à l'impôt des frontaliers. Jean-Paul Pitchy, vous allez nous expliquer son fonctionnement et puis aussi nous donner quelques chiffres.
C'est un accord entre la France et la Suisse qui existe depuis 1983 et qui concerne 8 cantons, dont celui de Neuchâtel. Les explications du chef du service cantonal des contributions, Youssef Waïd.
Traditionnellement, la personne qui habite dans un autre pays et qui travaille en Suisse est imposée en Suisse à l'impôt à la source sur son activité. Or, au niveau des frontaliers, l'accord qui a été passé, c'est que le collaborateur français qui travaille en Suisse et qui passe la frontière tous les jours, l'imposition, au lieu d'être faite en Suisse, elle est effectuée directement par la France. Et en contrepartie, la France rétrocède une part, un pourcentage de la masse salariale globale sur ces activités-là.
L'impôt des frontaliers prévoit que Paris rétrocède à la Confédération 4,5% des salaires bruts versés en Suisse aux ressortissants français frontaliers. Pour 2021, le canton de Neuchâtel a reçu ces derniers jours la somme de 49,6 millions de francs. 75% de ce montant revient aux communes dans lesquelles le frontalier exerce son activité, soit au total 37,2 millions de francs. Et le panel des communes qui bénéficient de cet impôt est en augmentation. On retrouve Youssef Waïd.
Ce qui a peut-être aussi évolué, c'est que les frontaliers avant restaient plutôt dans la zone frontalière, le haut du canton, mais maintenant les gens se déplacent et vont travailler jusque dans le bas du canton.
Des communes qui sont libres d'utiliser cet argent comme bon leur semble, mais qu'en est-il du canton? La réponse de Youssef Waïd.
Ça fait partie finalement des recettes et ça concerne finalement le ménage commun. Il n'y a pas de particularité d'attribution particulière au niveau de cette redevance.
Le canton se voit donc rétrocéder 25% de l'impôt des frontaliers, une part qui tient notamment compte de l'estimation de la répartition des coûts occasionnés par les frontaliers et fait actuellement l'objet de débats au Grand Conseil. Précisons encore que la Suisse et la France sont actuellement en train de discuter du traitement de l'imposition du télétravail qui s'est généralisé de manière rapide lors de la pandémie, qui va perdurer et qui donc induit une plus grande présence des travailleurs sur sol français.
Merci Jean-Paul pour ces précisions. Cet accord est réciproque, mais pour l'heure, le montant que la Suisse et donc le canton de Neuchâtel devra verser à la France pour les salaires perçus en 2021 par les frontaliers helvétiques n'est pas connu. Il est toutefois bien moindre. Le montant était de 221 000 euros en 2020, selon les chiffres fournis par le service des contributions. Après les diabétiques en novembre dernier, l'ensemble des patients neuchâtelois pourront avoir un dossier électronique dès lundi. Un accompagnement privilégié est prévu pour les personnes les moins à l'aise avec l'informatique. Des stands mobiles seront aussi mis en place dans les cabinets médicaux. On en reparle plus en détail ce soir dans notre journal de 18h. C'est le jour des retrouvailles pour la brocante du Landron. Après deux ans d'interruption causée par le Covid-19, la manifestation du Vieux-Bourg fait son retour aujourd'hui. Organisée par l'association de la vieille ville du Landron, cette 47e édition se prolonge encore demain et dimanche. Le déballage a eu lieu ce matin. Les amateurs d'antiquités et de bonnes affaires étaient déjà nombreux devant les stands avant l'ouverture officielle de la manifestation. Pour les marchands, après la passe difficile de la pandémie, c'est une joie de se retrouver au Landron.
C'est magnifique, les gens sont contents, les gens sont souriants, il fait beau, il y a du soleil. Qu'est-ce qu'on veut de plus? C'est juste super.
C'est du plaisir, hein. Au bout de 3 ans, c'est vrai que d'attente, on est heureux de revenir parmi tous nos collègues et clients, de revenir un peu sur cette belle manifestation.
On le sent mieux maintenant, on est dans un nouveau vivant.
Mais c'est vrai que ça permet d'animer le bourg qui a été un petit peu déserté pendant 2 ans, effectivement.
Ouais. Ça fait plaisir de retrouver le centre-ville du Landron et puis de pouvoir retrouver tout le monde, de recroiser des gens, bien sûr.
C'est vrai que c'est ce qui est très sympa dans ce métier, c'est tous les contacts et de retransmettre l'objet et de voir un sourire et quelqu'un qui est content en face d'acquérir l'objet. Donc ça fait vraiment partie de l'ensemble du métier qui est multitâche.
L'entrée à la brocante du Landron est gratuite, le parking est lui payant. La manifestation peut aussi être atteinte par le rail ou par bateau. Et puis une galerie photo est à découvrir sur rtn.ch. La 95e édition de la fête des vendanges est dans les starting blocks. Dès ce soir et jusqu'à dimanche, la manifestation fera vibrer le centre-ville de Neuchâtel pour son grand retour après 2 ans d'absence dû au coronavirus. RTN est l'invité d'honneur de cette édition. Parmi les grands changements cette année, le passage au verre réutilisable ainsi que le cashless qui force le paiement des consommations avec un bracelet à puce électronique. Et puis ici, on fête le vin, nos voisins allemands, eux, fêtent la bière. À Munich, l'Oktoberfest est également de retour après 2 éditions annulées pour cause de pandémie. Jusqu'au 3 octobre, près de 6 millions de visiteurs sont attendus sur le site de la plus grande fête populaire au monde. Notre correspondante en Allemagne, Delphine Nerboli, est sur place. L'ambiance est bien dans la fête malgré une période chargée d'incertitudes. Reportage.
Musique bavaroise, toast collectif repris par la foule, la fête est bel et bien de retour sur la Wiesn, cet immense espace du cœur de Munich réservé à l'Oktoberfest. Comme tous les fans de cette grande fête populaire, Maria n'a pas pu y participer durant 2 ans à cause du Covid. Elle ne cache pas sa joie d'être de retour.
Pouvoir enfin de nouveau faire la fête, c'est un très beau sentiment. Cela rend heureux.
Une chope de bière à la main, l'ami de Maria, Edeltraut, refuse de penser à l'inflation. Bien sûr, le litre de bière a augmenté. Il coûte désormais plus de 13 euros. Mais Edeltraut dit faire avec.
On le sait d'avance, chaque année les prix augmentent car la bière doit être bio et de bonne qualité. Il faut juste l'accepter. Nous, on ne compte pas, on veut simplement profiter du moment. C'est un peu comme un jour de vacances, on se laisse aller.
Du côté des organisateurs aussi, on savoure le retour de l'Oktoberfest. Les chiffres de fréquentation étaient moins bons qu'il y a 2 ans lors du premier week-end, mais pas question de broyer du noir pour le restaurateur Stefan Kufer.
Ça se passe très bien. Bien sûr, le temps n'a pas été optimal. Notre chiffre d'affaires est stable par rapport à 2019 ou un peu en dessous, mais c'est lié au mauvais temps. Nous sommes très satisfaits. Les visiteurs sont détendus, ils ne se posent pas de questions, ne pensent ni à hier ni à demain. Ils veulent faire la fête et c'est ce qu'ils font.
Derrière la bonne humeur, les difficultés sont toutefois bien réelles, notamment pour les 400 forains présents sur le site. C'est ce que confie Yvonne Heckel, leur porte-parole.
Nos plus grands défis sont le coût de l'énergie et le prix incroyablement élevé du carburant. Difficile pour les forains d'arriver ici en camion. Il y a aussi le manque de personnel et la rareté de certains produits, comme les ballons de baudruche. On n'en trouve pas ou à des prix faramineux.
Les 600 forains et restaurateurs en sont conscients. Ils vont voir leur marge diminuer cette année et ne peuvent augmenter que modérément leur prix s'ils veulent que la fête reste populaire. Et pour se mettre au diapason d'un pays qui cherche à faire des économies d'énergie, ils ont décidé de ne pas chauffer les espaces extérieurs où boivent et mangent les visiteurs. Pas question en revanche de réduire l'éclairage comme le font de nombreuses villes allemandes. Grand-Roue et autres manèges resteront illuminés encore une grosse semaine.
C'était un reportage de notre correspondante en Allemagne, Delphine Nerbollier. Les élections législatives ont lieu ce dimanche en Italie, un événement politique qui va attirer l'attention de nombreux citoyens en Suisse d'origine transalpine. L'enjeu est de taille. Pour la première fois, une femme semble en mesure de se hisser à la tête du gouvernement. Avec son parti nationaliste Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni est alliée à 2 autres formations de droite. Une situation qui inquiète la conseillère aux États vertes Céline Vara. La Neuchâteloise binationale participe à ces élections.
Je suis bien placée pour savoir qu'on est bien représenté que par les gens qu'on élit. On se dit effectivement qu'à terme, ça pourrait être une femme, enfin, qui arrive au pouvoir, mais qui défend des valeurs d'extrême droite. C'est un scénario qui m'inquiète, parce que je ne crois pas que ce soit dans l'intérêt de l'Italie d'avoir un gouvernement qui est sur le repli et qui met en avant comme seul programme l'identité nationale. Je crois que les Italiens, d'ailleurs, sont assez fatigués. Quand les gens sont fatigués, soit ils se désintéressent de la politique et donc ils ne se mobilisent plus, la démocratie est en péril, soit ils votent de manière rebelle en votant pour les extrêmes, et ça, c'est toujours dangereux.
Autre élue binationale au Palais fédéral, la verte Lisa Mazzone va aussi voter lors de ces élections italiennes. La jeune voix se dit soucieuse de l'arrivée possible d'une droite au pouvoir. Lisa Mazzone.
Je pense que la gauche n'est pas dénuée de tort dans cette situation. Et il y a aussi une question d'arrogance et de la manière dont on fait de la politique. On a eu le mouvement 5 étoiles en Italie qui a aussi donné un message, je pense, sur une certaine distance entre la politique et les citoyennes et citoyens. Il y a un enjeu important dans un pays qui garde des structures qui ne sont pas toujours exemptes de dysfonctionnement. C'est des dysfonctionnements dans l'État. Et puis qu'on se dit, mais voilà, à quoi sert l'État? Qu'est-ce qu'il fait pour moi?
Un sujet de notre correspondant à Berne, Frédéric Nejat Toulami. La Suisse rejette 14 000 tonnes de plastique par an. La principale source de pollution est l'abrasion des pneus, constate aujourd'hui le Conseil fédéral dans un rapport. Les matières plastiques se délitent en fragments de plus en plus petits qui se retrouvent dans les océans, les cours d'eau, les sols, l'air ou encore les montagnes. Elles ont des répercussions néfastes sur la santé et l'environnement. Le gouvernement souligne que des améliorations sont possibles, des alternatives respectueuses du climat doivent être promues. Des référendums d'annexion à la Russie ont débuté aujourd'hui dans plusieurs régions d'Ukraine. Les votes doivent se tenir jusqu'au 27 septembre. Sont concernées les régions séparatistes pro-russes de Donetsk, Lugansk et les zones sous occupation russe à Kherson et Zaporijja. Ces scrutins sont qualifiés de simulacres par Kiev et les Occidentaux et marquent une escalade du conflit.
11h27 sur RTN.
Sport. Au pays des kangourous, Alexandre Balmer s'est battu comme un lion lors des championnats du monde de cyclisme. Le chaudfonnier s'est classé 15e de la course en ligne des moins de 23 ans. Sur le circuit de Wollongong en Australie, il n'a pas manqué de beaucoup le podium. L'analyse de Marcel Neuenschwander.
Alexandre Balmer a fait mieux que de se montrer, mais le cyclisme est cruel, il ne récompense pas nécessairement les plus audacieux. Ainsi, à moins de 10 km de l'arrivée, l'ancien champion du monde junior de VTT est parti en contre dans l'ultime ascension du jour. Le chaudfonnier n'est pas parvenu à opérer la jonction avec les deux hommes de tête. Il n'a rien pu faire ensuite dans le sprint pour la médaille de bronze. À l'arrivée, il n'a pas caché sa frustration, expliquant qu'il lui avait manqué 10 mètres pour une médaille. Et de poursuivre, j'étais sûr qu'on allait tous revenir et je n'ai donc pas tout donné pour recoller. Je n'ai pas compris pourquoi le peloton n'a pas roulé à cet instant. Ce premier peloton a échoué au final à 3 secondes du nouveau champion du monde, l'impressionnant Kazakh Yevgeny Fedorov. Alexandre Balmer se classe donc 15e, n'ayant plus l'énergie de disputer le sprint. Une seule certitude en revanche, le bonhomme a démontré une fois de plus toute l'étendue de son potentiel au terme d'une saison pourtant tronquée par une blessure.
Dans la course réservée aux juniors, les Suisses n'ont pas non plus réussi à monter sur le podium. Meilleur helvète, Jan Christen s'est classé 12e d'une épreuve remportée par l'Allemand Emil Herzog. Le coup d'envoi de la deuxième ligue est donné ce soir en hockey sur glace. Un premier match figure au programme dans le canton. Le CP Fleurier attend Ergoel HC à 20h30. Quatre clubs neuchâtelois disputeront le championnat cette saison. Outre le CP Fleurier, il s'agit du Locle, de Star Chaux-de-Fonds et du néo-promu Neuchâtel Young Sprinters. Très belle suite de journée à toutes et à tous.